Ah, Pascal CV. On va aller rejoindre un autre de nos chroniqueurs qu'on adore. Le remplaçant d'Antonine Iaccarini dans le caucus. Là, aujourd'hui, là, c'est un show pas comme les autres. D'habitude, le caucus, Pascal, est de midi à midi et demi. Mais là, Charles Milliard venait s'asseoir en studio avec nous autres. Fait qu'on a dit, on va déplacer ça. Là, on a dit, il se passe bien trop d'affaires aux États-Unis, ça nous prend Valérie Beaudoin. Valérie, on le sait, elle est souvent à la télévision, avait des heures restreintes. Fait que je veux remercier notre ami Victor Henriquez, qui, lui, est arrivé et a dit, savez-vous quoi, ça me dérange pas. Déplacez-le, le caucus, ça va me faire plaisir de m'entretenir avec vous vers la fin de l'heure de midi. Donc, il est midi 50 sur les heures de Boulevard 102.1.
C'est presque, un caucus partagé. Là. Depuis le début de l'année, on pourrait l'appeler le caucus point. Parce que Victor mérite sa place au même titre qu'Antonine Iaccarini.
Ah, Victor est exceptionnel.
Moi, je vis très bien avec le statut de remplaçant d'Antonine Iaccarini. Il n'y a pas de problème. Mais je suis bien content aussi d'avoir laissé la place à Charles Millard, quand même, hein, chef libéral dans quoi, 14-15 jours, et Valérie Beaudoin, qui est toujours aussi pertinente.
As-tu eu la chance d'entendre notre entrevue avec Charles Milliard, où tu étais occupé, parce que je sais que tu es un homme occupé?
Non, je voulais absolument l'écouter, et je trouve que c'est quelqu'un qu'on va... Moi, je pense qu'on va gagner à connaître M. Milliard. Hein. C'est un style très différent, plus technocrate, un peu comme style, puis ça va être intéressant parce que je vois un peu le même style de Christine Fréchette. Puis je pense que quelque part, c'est le même genre de candidature. Et je pense que M. Milliard a des idées très claires sur plusieurs aspects. J'ai aimé sa réponse, par exemple, sur la loi 96 puis la loi 21. Moi, j'aime ça quand les questions sont simples, que les réponses le soient autant. À partir du moment où tu me dis oui, ça va rester, on part sur une base intéressante. J'ai souvent dit que c'était une nécessité pour les libéraux d'être plus clairs sur ces aspects-là. Je pense qu'il va amener quelque chose d'intéressant. Alors, ça aura pris un an de plus, mais il va finir par se rendre là où je pense qu'il doit être pour les prochains mois.
Est-ce qu'il est capable de remonter ce parti-là après toutes les histoires de corruption à la Pablo Rodriguez?
Dans un contexte normal, je t'aurais dit non, mais dans le contexte actuel, tout est possible pour une raison très simple. La situation que les Québécois, l'autre fois que les Québécois vont avoir à faire à la prochaine élection, il va être extrêmement polarisé. D'un côté, on a un parti québécois qui, on l'a vu en fin de semaine, hein, est très porté vers son ambition référendaire, très clair là-dessus. D'ailleurs, je ne suis pas sûr de la stratégie de Paul Saint-Pierre-Plamondon de partir un nouveau débat sur les plaines d'Abraham, même si je suis tout à fait d'accord avec lui, avec Charles Millard, sur le fait que Mark Carney n'aurait pas dû réécrire l'histoire.
Trop porté le PQ à l'heure actuelle sur la souveraineté. C'est Pascal qui me faisait remarquer ça à son retour mardi en disant « Ah, il me semble que c'est tôt en tabarouette pour commencer la campagne référendaire. » Puis je suis d'accord, moi, avec ce propos-là.
Ben, c'est trop, c'est comme pas assez. Hein. Tu sais, moi, je trouve qu'on a overkill la situation. Tu sais, je suis d'accord, puis je pense pas que c'est une petite controverse. Je pense que c'est une erreur que Mark Carney a faite, une erreur importante. Je pense pas qu'il va la faire deux fois. D'ailleurs, invitation à tous les politiciens. Quand vous commentez le passé, c'est toujours risqué. Parce qu'on peut en faire n'importe quelle lecture aujourd'hui, mais laissons l'histoire aux historiens, puis parler du présent et de l'avenir, ça va vous mettre dans des zones moins risquées. Mais oui, je pense qu'il a fait de l'overkill là-dessus. Je pense qu'ultimement, l'enjeu va être là. C'est que les Québécois, ils ont plein de choses qui les préoccupent. Ils sont préoccupés par Trump, ils sont préoccupés par le coût de la vie, ils sont préoccupés par le logement. Est-ce que vraiment on veut nous parler de souveraineté? Moi, je ne pense pas que ça va accrocher.
J'ai une question pour toi, Victor, par rapport au contenant. Oui, au contenu, parce que bon, il nous l'a dit, pour lui, ça va être des enjeux. Il veut discuter d'enjeux, puis pas des affaires qui est groupées autour. Mais il semblait, puis je l'ai un peu pointé pour qu'il puisse développer, avoir beaucoup d'optimisme, de positif, de ci, de ça. Mais on est dans quelque chose de très aride au niveau de la politique en ce moment. C'est même risqué. Il faut les bonnes personnes aux bonnes places. On peut perdre beaucoup, on a déjà perdu beaucoup. Bon, après, on a nos opinions personnelles. Quelles sont les, peut-être, que tu observes, qualités et les défauts de M. Milliard dans l'atmosphère politique actuelle?
Je pense qu'au niveau des qualités, il y a un élément qui a amené, d'ailleurs, il en a parlé tantôt, il dit « je veux amener le pharmacien en moi, puis je trouve ça intéressant ». On a besoin de ce côté cartésien dans des crises. D'ailleurs, Mark Carney l'illustre extrêmement bien, puis je vais vous parler un peu plus dans pas long du sondage sur Mark Carney. Mais ce qu'il apporte d'intéressant, c'est qu'il a l'air lui-même de quelqu'un de plus cartésien que l'était Pablo Rodriguez, de peut-être un peu plus technocrate, peut-être un peu plus plate. Mais être plate n'est pas nécessairement un défaut quand on a besoin de gens efficaces au gouvernement. Et là-dessus, je pense que les Québécois vont être ouverts. Comme je disais, c'est un peu ce que je vois sur Christine Fréchette aussi. C'est moins flamboyant, ça fait moins de bruit, ça fait moins de grandes promesses. Et vous savez quoi? Les grandes promesses, ça coûte cher. Et les grandes promesses, ça insécurise. Et quand il y a des crises comme celle qu'on vit avec Donald Trump, qui va durer encore pendant une couple d'années, la dernière chose qu'on veut, c'est des gens qui vont trop risquer. On ne veut pas des gamblers, on veut des gens safe.
Victor, venons-en justement au sondage Mark Carney, parce que c'est un véritable raz-de-marée, le sondage Léger qui est sorti ce matin. À l'échelle du Canada, 47 % pour les libéraux, 38 % pour les conservateurs. Au Québec, les libéraux ont 46 % les conservateurs 22 % et le Bloc québécois a perdu 12 % pour être à un plancher de 26 %. C'est du jamais vu depuis le mois de septembre 2025 pour eux. Et là, quand on regarde province par province, 63 % en Atlantique pour les libéraux, 51 % en Ontario, et au Manitoba et en Saskatchewan, les libéraux sont nés à nez avec les conservateurs à 44 % contre 46 %. Victor, on s'en va en élection au printemps.
On pourrait s'en aller en élection au printemps si Mark Carney voulait aller chercher une majorité. Moi, je ne pense pas qu'on va aller en élection au printemps parce que je vais être honnête avec vous. Moi, je pense que Mark Carney va devenir majoritaire dans les prochaines semaines. Moi, je suis convaincu. Rappelons-nous, il est à un député de la majorité. Moi, je suis convaincu qu'après le vote de confiance des conservateurs en fin de semaine, il va y avoir du mouvement à Ottawa.
Ah, c'est tellement un bon point.
Il y a des gens chez Modéré qui sont tannés des années Papoilievre, qui voient bien les chiffres. Et en ce moment, ben, on regarde ça et on se dit, mais pourquoi on ferait une élection? Finalement, avec deux, trois conservateurs qui changent de bord, on vient de régler le problème, puis on s'en va pour un autre 3 ans.
Peux-tu nous expliquer le genre de virement, changement de cap qu'on a vu dans les 2 dernières semaines par rapport à Mark Carney? Tellement de gens qui disaient, ah non, il livre pas ce qu'il devrait livrer. Il était très, très critique en ce début de mandat-là. Et là, oups, ça commence à flipper un peu. Dans ton œil d'analyste, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais.
M. Carney est en train de réussir à ce que j'appelle changer le narratif. Okay? Le narratif, c'est quoi? C'est cette grande histoire qui se raconte. Et Davos a été un point tournant. Je suis convaincu qu'on se rappellera de Davos très, très longtemps parce que les Canadiens ont vu de quoi a été fait leur premier ministre. Cette capacité, justement, à rallier, s'est tournée à l'international. On s'est demandé la première année à quoi ça servait. Puis quand on arrive avec le discours de Davos qui a été applaudi par tout le monde, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une ovation debout, ce qui est très, très rarement arrivé à Davos. Là, je lisais les commentaires, puis c'est arrivé seulement 3 fois, donc c'est assez exceptionnel. Et ce discours de Davos va avoir expliqué un peu ce qu'il était en train de construire dans les derniers mois. Maintenant, c'est sûr que c'est temporaire. Les sondages, c'est toujours temporaire. C'est une photo. Elle nous démontre une chose, par exemple, au Québec importante. Le discours de Davos a poigné, et le discours des plaines d'Abraham, les gens s'en foutent un peu. Excusez-moi de le dire comme ça, mais oui. C'est ça que ça nous dit. Ce que ça nous dit, c'est que les gens ne sont pas préoccupés par ça, parce que ce n'est pas le moment de se préoccuper par ça, parce que les Québécois ne sont pas fiers. Les Québécois sont très fiers, et je ne pense pas qu'ils l'auraient pardonné, ce discours-là, dans un autre contexte, mais dans le contexte actuel, c'est un peu passé dans le beurre, cette critique-là. Et Mark Carney, il est dans une position comme celle-là parce qu'il est extrêmement méthodique, parce qu'il est plus cartésien qu'émotif, et parce qu'il a construit un narratif où est-ce qu'il ne se présente pas comme celui qui va lutter contre Trump de façon hyper exagérée, mais il dit les vraies choses, puis il n'a pas peur de les répéter. D'ailleurs, c'est là qu'il l'a répété à Donald Trump.
Le Bloc québécois, 26 % au Québec, ça te dit quoi, Victor? Ça te dit qu'on est beaucoup plus préoccupé présentement par la politique internationale et la politique qu'on a avec nos voisins du Sud, les États-Unis, que la souveraineté? Ouais.
Ce que ça me dit, c'est qu'on est plus polarisé que jamais. Hein. Quand on regarde les chiffres, ce qu'on voit, c'est pas un effondrement des conservateurs. En ce moment, ils ont monté de 2 points dans les sondages. Ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, le Bloc s'effondre et dans le reste du Canada, le NPD disparaît. Alors, littéralement, c'est ça qui est en train d'arriver, c'est qu'on a cette espèce de clivage entre les conservateurs et les libéraux. Et moi, le vote de bloquiste, il y a une chose que je ferais du côté du PQ, c'est que je serais attentif à ça parce que c'est une très mauvaise nouvelle pour le PQ que le Bloc a 26 %.
Est-ce que tu vois que ça va encore être de plus en plus difficile de se serrer les coudes entre le provincial et le fédéral dans les prochaines années?
Je pense qu'au contraire, ça va être intéressant de voir le choix que les Québécois vont faire à la prochaine élection parce que ça va déterminer ce que tu viens de dire, Pascal. Cette capacité de se serrer les coudes avec le fédéral, elle va dépendre de quel type de gouvernement on choisit. Et c'est là où je vais être honnête avec vous. Moi, dans les derniers jours, je trouve que Christine Fréchette a peut-être une possibilité de marquer des points dans le cœur des Québécois. On a eu tendance à penser que c'était un peu fini pour la CAQ. Et moi, quand j'écoute Mme Fréchette, puis j'entends dire, par exemple, que c'est le pire moment en 50 ans pour faire un référendum, il faut garantir que c'est le genre de phrase qui, à Ottawa, plaît bien. Et ce qui fait qu'on peut se dire qu'à la prochaine élection, on aura peut-être deux partis qui nous propose de collaborer avec le fédéral plutôt que de tomber dans un référendum. Et peut-être que ces deux parties-là ont une chance de l'emporter.
Et c'est moi qui se trompe, en terminant, Victor, elle se détache beaucoup du côté identitaire de la CAQ. Là, elle a dit, bon, la Constitution, c'est pas le temps pour faire ça. Elle ne parle pas beaucoup, justement, de la nation, de ce nationalisme. Elle parle beaucoup plus en matière économique. Donc, elle se positionne plus dans le camp fédéraliste, Christine Fréchette.
Moi, je vais la positionner dans le camp autonomiste économique, surtout. Un fédéraliste, pas tant, hein, c'est quand même, vous vous rappelez, c'est une ancienne du Parti québécois. Mm-hmm. Donc, je ne suis pas sûr que c'est une fédéraliste tant que ça, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'elle a un équilibre bien, bien brillant. Regardez, hier, elle annonce l'appui de Jean-François Roberge, probablement un des plus grands représentants du nationalisme identitaire à la CAQ, qui dit « Madame Fréchette, c'est celle qui incarne le mieux la CAQ ». Et le lendemain, elle dit, moi, la Constitution, on verra après les consultations. Donc, il y a cette espèce d'équilibre intelligent qu'elle est en train de mettre en place, de ne pas se mettre à dos les identitaires nationalistes, mais de bien leur faire comprendre que peut-être qu'en ce moment, la priorité n'est plus là. On a fait une partie du travail dans les 7 dernières années, mais là, ce qu'on a besoin, c'est d'un gouvernement économique. Et là-dessus, il semble y avoir une espèce de pensée commune, que le gouvernement économique, c'est ce qui réussit. C'est ce que nous dit le sondage, c'est ce qu'incarne M. Millard, c'est ce qu'incarne Mme Fréchette. Et la question, ça va être comment le Parti québécois réussira à l'incarner tout de même. Parce qu'il ne faut pas sortir le PQ de cette discussion-là. Il pourrait arriver avec des super candidats économiques, avec une vision économique extrêmement forte, et se réinsérer dans cette conversation-là. Il y a une chose qui est claire. Les Canadiens et les Québécois, en ce moment, sont préoccupés par leur situation économique, par leur panier d'épicerie, et c'est là-dessus qu'ils vont voter aux prochaines élections fédérales, provinciales ou ailleurs.
Ouais. Chose certaine, Victor Henriques, on est parti pour une année politique sur les chapeaux de roue, comme on l'a vécu en 2025, puis ça fait notre bonheur parce qu'on tripe sur la politique.
Attachez votre tuque, ça risque de bouger. Souvent, ça risque de bouger vite. Alors, je pense qu'on va se reparler peut-être. Hein? Ça risque d'arriver.
Oui, ça va arriver certainement. Victor Henriques, c'est toujours un bonheur quand tu collabores avec nous à l'émission d'Angers. Merci beaucoup pour ton temps ce midi.
Le remplaçant d'Antonin Iaccarini.
Voilà.
Il veut qu'on l'appelle de même. Salut, Victor.
Bye.
Alors, c'était un caucus en format accéléré avec Victor Henriques. Je le répète pour ceux qui ne sont pas habitués à notre émission. Normalement, le caucus qui est avec Antonin Iaccarini du lundi au jeudi, c'est de midi à midi et demi. Mais aujourd'hui, on avait Charles Milliard à midi. On ne voulait pas rater cette belle opportunité de parler avec le futur chef du Parti libéral du Québec. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a déplacé un petit peu l'horaire. Pascal, dans cet horaire de fou,
oui.
Dans cette lignée de collaborateurs intéressants avec Valérie Beaudoin et Victor Henriques, on n'a pas encore informé nos auditeurs. Le temps de faire une coupe de manchette.
Ben, on l'a
pense?
Fait en entrevue. On l'a
exactement.
Fait,
on a parlé des grands sujets, exactement. Oui. Mais sinon, là, qu'est-ce qu'il y a à retenir? À part moi et toi qui chiale ces travaux du tramway, là, qu'est-ce qui se passe dans la ville de Québec?
Je dirais que même pendant l'entrevue avec Valérie Beaudoin, ça continuait d'entrer.
Oui, j'ai voyé.
Vous êtes fort intéressant dans vos informations. Vraiment. Il y a des restaurants qui risquent de fermer et qui y pensent déjà. En passant, j'ai eu des petits scoops. Vous pouvez toujours nous écrire. En passant, il y en a qui rentrent dans ma boîte Messenger. Il y en a qui rentrent au 88-971-102. Il y en a qui rentrent dans la boîte Messenger de de tout le monde, finalement. Continuez de le faire parce que il y en a un qui disait qu'à gang, on sait tout, puis c'est vrai.
Ouais,
en passant, on a ouvert une ligne directe qui est fort intéressante. C'est celle de Mathias Turcotte,
oui, tu fais
notre
bien
collègue. Puis ça, là, je pense que ce serait la façon la plus intéressante de nous contacter. C'est l'adresse courriel citoyen au singulier @blvd.fm. Tout ce qui vous préoccupe peut aller là. Donc, vous avez des scoops, vous avez des informations. C'est aussi un endroit supplémentaire où vous pouvez le faire parce qu'on va continuer d'enquêter, on va continuer de travailler sur le terrain pour vous, puis on fait ça à la gang. Mais c'est sûr que le projet de tramway fait jaser. Puis c'est sûr que le projet de troisième lien fait jaser. Puis ça a été le cas parce que le député fédéral Jean-Yves Duclos a pris la parole et lui a dénoncé ouvertement ce projet de troisième lien. On dit que ça va défigurer, éventrer la base ville, qu'on en a déjà assez sur nos réseaux routiers. Donc, le corridor central qui a été retenu par la CAQ, ça fait pas du tout son affaire. Dans la nouvelle mouture, ben, il y a le projet de pont-tunnel. Ça prendrait sa source près du chemin des îles à Lévis, puis ça aboutirait, là, autoroute Robert-Bourassa, donc soit sur le boulevard Pierre-Bertrand du côté de Québec. Et ça aurait des effets dévastateurs, selon le député fédéral. Des effets aussi sur les quartiers comme Saint-Malo, Saint-Sauveur, Vanier. Et c'est certainement dans un endroit qui, pour lui, est difficile à imaginer qu'on éventrerait des quartiers comme ça et que ça passerait pour des corridors de transport. Donc, il a pris une grande prise de parole quand même importante. Il l'a qualifié d'horreur urbanistique, là, le projet de troisième lien.
Donc, une très grande prise de parole. Mais on s'entend, même les pros troisième lien veulent rien savoir du corridor central. Je sais pas pourquoi qu'on s'entête du côté de la CAQ.
C'est la fin d'un programme de fidélité au RTC. Alors là, à vous de nous parler
de
vos commentaires.
Ah oui, j'ai
vu ça! C'est le réseau de transport de la capitale qui a annoncé, là, ça vient d'être fait dans les dernières heures, que c'était la fin de l'abonne-bus perso. Bon, ça, c'est quoi? Ben, c'était une offre qui permettait aux membres de profiter d'un rabais, puis le rabais allait jusqu'à 25 pour l'achat de laissez-passer mensuel. Ça va se terminer dans 2 mois. Donc, le 31 mars 2026 a terminé. Sur le site Internet, le RTC, bon, parle d'une décision qui est vue pour le logiciel utilisé pour un programme d'abonnement qui est désuet. Donc, on n'est plus là-dedans. On ne veut plus aller là-dedans. On a décidé d'investir dans un logiciel de remplacement. Une nouvelle solution bilectique, j'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, qui va être mise en place prochainement. Et ça va permettre d'offrir aux clients du RTC des options de paiement plus simples, plus flexibles et mieux adaptées à leurs besoins. C'est ce qu'on lit. Je vous les lis de façon intégrale. Alors, probablement qu'on peut espérer avoir quelque chose de mieux, mais ça va se terminer d'ici là, le 31 mars. Sinon, ben, on sera là pour en jaser avec vous. Mais il faut savoir que les usagers devaient s'abonner sur une période minimale de 3 mois. Puis on avait un tarif préférentiel. C'était lié à l'abonne-bus, là. C'était 74 et 63 qui étaient prélevés chaque mois dans le programme de fidélité. Puis le tarif mensuel régulier, c'était 99 et 50. Alors, pour ne pas dire 100 $ par mois.
Comme par hasard, pendant que le centre-ville va être pris des travaux du tramway puis que la meilleure façon de se rendre, ça va être en bus, ben on enlève le rabais à ces gens-là qui travaillent au centre-ville.
Écoute, ça, c'est le petit
puis
point
je te rappelle qu'il y a un déficit au RTC.
Tu as besoin de me rappeler. Depuis que j'ai commencé ma carrière, qu'il y en a un.
J'ai peut-être un esprit complotiste présentement. Pardonne-moi.
Mais tu travailles à l'interne, tu sais, c'est toujours intéressant de t'entendre là-dessus. Dans 30 ans, tu ne pourras pas être notre expertise par excellence.
Non,
tu vas
non,
être
non.
Un vieux papy.
Ben, c'est ça, je vais être un vieux papy qui va dire « Dans mon temps, c'était bien mieux! »
Okay, oui, d'accord, Jean-François, mais...
Hey, je vais te rappeler, on faisait ça même avant.
C'était pas bien fait. Bon, regarde, j'espère, d'ici 30 ans, ça va grandement s'améliorer, mais on va avoir un genre de petit œil de sourcil là-dessus
oui,
parce
vraiment.
Que c'est vrai que les gens qui devront se tourner vers le réseau de transport par obligation et non par choix, on espère, auront un genre d'abonnement quelconque, économie ou parce que, tu sais, je veux dire, ce n'est pas des gens qui le choisissaient d'abord et avant tout. Il ne faudrait pas s'en mettre plein les poches avec l'offre et la demande à ce niveau-là. Puis ça va être une obligation. Donc, ça va encore faire en sorte qu'il y ait des gens qui n'adhéreront pas à ce nouveau projet-là. Ils vont trouver ça difficile
tellement
d'être
obligé. Raison. On mettre travaille la vraiment à contresens présentement avec le projet de tramway. Une petite dernière pour la route.
Contrat de 3 millions de $ pour l'héliport du méga hôpital de l'Enfant Jésus. Ça a été donné de gré à gré. Donc, l'entreprise qui a été retenue pour superviser l'installation de cette plateforme-là, c'est sur le nouveau complexe hospitalier là, de l'Enfant Jésus. Là. On est en rénovation depuis quelques années, tout ça. Puis on a sélectionné l'Enfant Jésus sans concurrence pour éviter des délais et des coûts supplémentaires. Donc, le 14 novembre dernier, la Société québécoise des infrastructures avait publié un avis. Puis cet avis-là s'apprêtait à conclure un contrat de gré à gré avec la société néerlandaise Byers Illideck BV. Et ça comporte une dépense plus grande que le seuil d'appel d'offres public. 3 095 000 $ le 11 décembre dernier, c'est ce qu'on signait, c'est ce pour quoi on s'attendait. On s'entendait, mais il n'a pas été rendu public avant mardi, donc hier. Là. Et c'est une entente qui porte plus précisément sur l'acquisition de la supervision de l'installation d'une plateforme d'héliport, diverses composantes dans le cadre du projet de construction du nouveau complexe hospitalier sur le site de l'Enfant Jésus, phase 2. Encore de longues phrases pour qu'on comprenne pas tout à fait rapidement la première fois qu'on en parle, mais plateforme d'héliport, elle devrait être fonctionnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et ça, c'est plus que notre traversier Québec-Lévis.
Oui, c'est vrai, ça. Hey, c'est donc bien bon comme projet.
Mais il va devoir avoir présence d'un système de chauffage performant parce qu'on veut que ça soit sec.
Oui, pas le choix.
Pas de glace, pas de neige.
Donc, à suivre dans ce dossier-là, l'hôpital L'Enfant-Jésus, là, le nouveau méga-hôpital qui prend forme tranquillement, mais sûrement. Après la pause, Pascal, on parle avec un modèle féminin en politique, une personne que j'admire, Catherine Fournier, qui a décidé, avec sa belle bedaine de femme enceinte, de prendre des photos pour le magazine Clin d'œil dans la section lingerie printemps-été.
C'est-tu quoi, Jeff? Est-ce que je suis la seule pour qui la réaction a été « OK, ah ouais, Scandale.
Ah, oh, moi, pas de scandale
là,
là-dessus.
Lingerie, mais,
ouais,
en
pas
maillot...
lingerie, je me suis mal, exprimé.
Peut-être
là.
Pour toi, c'était moussé, mais toi, moi, honnêtement, du, j'ai rien vu des
moussés. C'est du linge classique glamour.
Elle a un maillot de bain où on voit rien.
Exactement.
Avec une belle grande robe, c'est classe, puis elle est enceinte. Si quelqu'un est en train d'hypersexualiser le fait d'être enceinte.
C'est ça. On parle de ça. Avec Parlez-moi Catherine pas. Fournier, après la pause, à Boulevard 102.1, l'émission d'Enjase.